Une vie, une œuvre, Violette Leduc, 1907, Arras, 1972, Faucon. C'est à Arras que Berthe Leduc met au monde la fille d'André de Barral qui ne souhaite pas reconnaître l'enfant. Très vite, Violette Leduc connaît la pension, d'abord à Valenciennes, puis à Douai. Là, elle découvre l'amour. Ses liens avec une surveillante, Denise, vont lui valoir un renvoi expéditif. Elle a 19 ans quand sa famille part pour Paris. Après un rapide passage au lycée Racine, elle décide de travailler chez Plon. Après Denise, vient Maurice Sachs, qui la pousse à écrire. Son admiration est sans limite pour quelques écrivains qui le lui rendent bien. Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean Genet, Jean Cocteau, Nathalie Sarraute encouragent et reconnaissent son talent. Se sachant laide et d'une intelligence autre, elle emprunte le chemin âpre de l'autofiction avec La Bavarde ou La Folie en tête. Elle écrit « L'intelligence, ma privation déchirante, les mots, les idées entrent et sortent comme des papillons. Ma cervelle, graine de pissenlit au gré du vent. » Christian Giudicelli signe avec Marie-André Arminot « Une vie, une œuvre, Violette Leduc ».
On croit qu'écrire, c'est se délivrer de tout. Ça, c'est une vaste blague. On écrit, on croit qu'on se décharge d'un amour, qu'on se décharge de complexes, qu'on se décharge de certains découragements. Eh bien non, on reprend la plume, on sent que tout est là, tout est en vous et jusqu'à votre mort.
Violette Leduc, une émission de Christian Giudicelli réalisée par Marie-André Arminot. Jusqu'à sa mort en 1972, Violette Leduc a mené un combat singulier contre le sort qui ne l'avait pas faite belle, contre le sort qui la fit naître bâtarde en 1907 à Arras, contre le sort qui lui donna une mère peu affectueuse, contre le sort qui la condamna souvent à ce que Kundera appellerait de risibles amours. Quelles furent ses armes pour résister et finalement s'imposer après bien des difficultés ? On n'en verra qu'une, l'écriture. Une écriture dont elle se satisfait difficilement, qu'elle ne cesse de travailler, de questionner, depuis son premier roman, L'Asphyxie, jusqu'à La chasse à l'amour, ouvrage qui parut de façon posthume en 1973. En tout, une dizaine de livres, d'où émerge évidemment, pour le grand public, La Bâtarde, qui obtint en 1964 un énorme succès et la propulsa tardivement sur le devant d'une scène qui ne fut pas alors que littéraire. Pratiquant une littérature de l'aveu, elle pourrait s'approprier au féminin la lumineuse formule d'Edgar Poe « En étant absolument sincère, je serai absolument nouveau ». Elle dira tout sur son homosexualité, sur ses passions malheureuses, sur sa solitude. Si elle paraît choquante, elle s'en moque. La vérité n'admet pas de demi-mesure. Elle la dévoilera dans un choc d'images bousculées qui dynamite des phrases généralement courtes en leur donnant souvent un irrésistible élan lyrique. Donc, fidèle à elle-même jusqu'à la fin. Nous essaierons de faire le point avec deux de ses lecteurs fervents, Carlo Giansitti, auteur d'une remarquable biographie de Violette Leduc chez Grasset, et René de Ceccati, auteur lui d'un essai Violette Leduc, éloge de la bâtarde, chez Stock. Nous aurons le témoignage de la romancière Dominique Rollin, qui fut une amie, et nous évoquerons les disparus qui firent à des degrés divers l'admiration de Violette Leduc, Simone de Beauvoir, Maurice Sachs et Jean Genet. Surtout, nous l'écouterons elle-même, grâce aux archives de l'INA. Nous l'entendrons s'exprimer sur sa vie et son œuvre avec cette liberté dans le ton, ce manque d'affectation, bref, ce naturel qui la caractérise. On se rendra compte, j'espère, que Violette Leduc n'a pas dit son dernier mot, que ses livres ne dorment pas sous la poussière et le respect. Ils restent vifs et dérangeants, se moquant des modes littéraires, du bon et du mauvais goût. Ils disent bien fort ce qu'on tait d'ordinaire. Ce sont des livres miroirs, toute une époque s'y reflète. Des gens célèbres y apparaissent, d'autres moins. Et puis, il y a la figure la plus attachante de toutes, une femme qui pleure, qui rit, qui jouit, qui souffre, une femme qui se souvient de la fillette qu'elle fut, cette petite bâtarde qui hante chacune de ses phrases et qui chemine désormais à côté de nous. René de Ceccati.
C'est une bâtarde qui a été élevée par sa mère dans la terreur des hommes, au fond, et la méfiance généralisée. Sa mère a été une femme séduite et amoureuse qui a été plaquée par le père de Violette le Duc, qui appartenait à une autre classe sociale, à partir du moment où elle était enceinte. Elle avait donc un schéma très courant de la bonne qui est engrossée par le patron, par le fils du patron.
Carlo Giansitti.
Quand on lit l'œuvre de Violette le Duc, qui est extrêmement autobiographique, on a envie justement de connaître cette vie, non plus de l'intérieur, mais de voir le regard des autres sur Violette le Duc. C'est ça qui m'a passionné, parce que je crois que c'est d'abord une œuvre autobiographique, mais une autobiographie romanesque.
Ben justement, avant d'en arriver à l'autobiographie, proprement parler, à la biographie plutôt de Violette le Duc, j'aimerais qu'on s'arrête un instant à votre biographie, vous-même, parce que dans votre à bon propos, vous expliquez que c'est un écrivain qui a modifié le cours de votre vie. Vous étiez tout jeune étudiant à Rome et vous avez lu Violette le Duc.
Oui, j'ai découvert La Bâtarde tout à fait par hasard en flânant dans une librairie et j'ai été ébloui par son style, la beauté des métaphores. Et ce style, c'est singulier. Je n'avais rien lu avant de semblable. Et donc, de là, j'ai commencé à me procurer tous les livres de Violette le Duc traduits en italien. Et puis, j'ai pris contact avec des amis de Violette le Duc à Paris et j'ai eu une envie d'apprendre le français pour la lire dans sa langue.
Donc, vous ne l'avez évidemment jamais rencontré. Vous étiez trop jeune. C'est d'ailleurs un regret que vous avez ou non, finalement ?
Non, j'aurais pas aimé. Si, d'un côté, j'aurais aimé la rencontrer, puis je me dis que si je l'avais connue, probablement, j'aurais pas eu envie d'écrire sa biographie. Parce que tous les témoins me racontent qu'elle était si difficile à vivre, si insupportable, etc., qu'elle devait par moments exaspérer les êtres. Donc je pense quand même que c'est bien de découvrir une femme, un écrivain à travers l'œuvre. Je pense que c'est mieux ainsi. Je préfère ne pas l'avoir connue finalement.
Ça commence mal dans sa vie, si je puis dire, par la bâtardise, qui est quand même presque le thème fondamental autour duquel s'organisera son œuvre et on peut dire sa vie. Vous avez donc fait des enquêtes justement sur cette bâtardise et sur ce milieu qui a été le milieu natal de Violette le Duc.
Oui, bien sûr, la bâtardise de Violette le Duc est appelée centrale de l'œuvre de son œuvre, hein. Le trou noir même autour duquel l'écriture va se construire. Mais ce qui est passionnant, c'est que j'ai découvert que même la famille paternelle de Violette le Duc, qui était une famille de notables de Valenciennes, était finalement des bâtards. C'était une ligne aussi maudite entre guillemets. Mais ça, sûrement, Violette le Duc devait l'ignorer.
Bâtarde, finalement, ça ne trouve pas sa place. Je pense qu'elle a une prédestination, tout de même. Il y a un manque, il n'y a rien à faire, et la société organisée, c'est un père et une mère.
Donc, elle est élevée, en partie, tout à fait au début, par sa mère, et il y a ces rapports quand même assez difficiles avec sa mère, qui ont été aussi l'une des sources de son œuvre. Et d'ailleurs, la mère, parfois, s'est plainte de la façon dont Violette l'avait traitée dans ses livres.
Oui, c'est un rapport extrêmement conflictuel d'amour et de haine entre la mère et la fille, parce que la mère a fait porter le poids de sa faute, entre guillemets, à Violette. Donc, elle s'est sentie rejetée par sa mère, mais en même temps, il y avait une passion extrême pour cette femme. Elle se rassemblait d'ailleurs, et physiquement, et sur le plan caractériel. Et c'est sûr que c'est l'héroïne principale des premiers livres de Violette le Duc, et sûrement Berthe le Duc, la mère. Ça, c'est une évidence.
Ma mère ne m'a jamais donné la main. Elle m'aidait à monter, à descendre les trottoirs en pinçant mon vêtement à l'endroit où l'emmanchure est facilement saisissable. Cela m'humiliait. Je me croyais dans la carcasse d'un vieux cheval qu'un charretier tirerait par l'oreille. Un après-midi, alors qu'une calèche fuyait, éclaboussant de ses reflets le sinistre été, au milieu de la chaussée, je repoussai la main. Elle me pinça davantage et me souleva de terre comme un poulet qu'on enlève par une seule aile. Je devins molle. Je n'avançais plus. Ma mère vit mes larmes. « Tu veux te faire écraser et tu pleures ?» C'était elle qui m'écrasait. Elle commençait par m'habiller la première. Quand j'étais prête, je tournais comme un manège devant elle. Elle me toisait, je m'arrêtais. tel un peintre qui s'éloigne et se rapproche de son chevalet, elle arrivait, estompait le brillant des coques d'un ruban en le renouant à l'envers, avançait mes boucles sur mes joues et m'asseyait sur une chaise de paille. Elle avait relevé ma robe et mon jupon. Quand je bougeais, pour moins sentir les fibres s'incruster dans mes chairs, elle me fixait. C'était bleu et dur. En pensée, je déchirais mon ruban, ma robe de broderie anglaise. Je courais pataugée autour de la pompe avec la bande qui arrosait les passants et leur dignité. Mais ce n'était qu'en pensée. Elle avait l'habitude de poser son chapeau sur sa tête quand elle était encore en pantalon, chaussée de bottines lacées jusqu'au-dessous du genou. Elle avançait, reculait, en se préoccupant seulement devant la glace de son visage et de cette immense galette qui basculait sur son chignon perdu. Le dressage de la voilette était fantastique. Elle la choisissait parmi des flots de tulle dans une boîte. Elle devait adoucir ou souligner ses traits.
« Qu'est-ce que tu penses de celle-ci ?»
Je répondais que je trouvais joli ce fin treillis gris et ces petites abeilles plus irréelles que la voilette elle-même dont on l'avait décorée. « Je te demande ce que tu en penses par rapport à moi. » Par rapport à elle, je ne pensais rien. Elle me tendait un plateau couvert d'épingles à cheveux. Je les avançais maladroitement à cause de mes doigts moites. Enfin, je me levais. Le sac perlé et l'ombrelle à la main, elle séduisait le miroir. C'était la répétition générale. Inflexible envers sa toilette, parfois elle se déshabillait de gris pour se rhabiller de noir. Parfois, la jaquette stricte, accompagnée d'un jabot mousseux, abdiquait en faveur d'une robe légère. Un jour, nous croisâmes un homme âgé. Il changea de trottoir. Il n'avait pas l'air content ni de nous ni de lui-même. « Cet homme-là, c'est ton grand-père. »«
Je n'ai pas de grand-père. »«
Tu en as un ?»«
Je n'ai pas de grand-père, je ne l'ai jamais vu. »« Tais-toi !»
Je n'insistais pas. Je me disais qu'un vrai grand-père, quand il vous rencontre, n'est pas un homme qui change hypocritement de trottoir. Je le revis alors que je courais chercher du pain. Comme un animal pris en flagrant délit, il me regarda de biais. Je ne le racontais pas à ma mère.
Violette Leduc grandit, vous la montrez adolescente au lycée, au collège, et vous nous racontez ses premières amours, ses premières passions, et assez vite, semble-t-il, elle a la sensation de sa laideur quand même.
Sa laideur qui était le reflet aussi de sa marginalité, de sa batertise. Elle était mais une laideur dont elle souffrit, mais qu'elle a oubliée au moment de sa découverte de la passion charnelle avec Isabelle, une amie du collège, une camarade du collège. Ça a été la découverte de la sexualité, la découverte de l'autre, et le retour vers la mère également, parce qu'elle s'était sentie rejetée par sa mère. Elle a été mise au collège au moment où sa mère s'était mariée. Mais c'est ça aussi un des plus beaux passages de la bâtarde, c'est justement la description de ces nuits de passion avec Isabelle, qui sont décrits avec un lyrisme et un réalisme à la fois tout à fait surprenant. Et après Isabelle, elle a une liaison avec une surveillante qu'elle appelle Hermine dans la bâtarde, enfin Denise, dans la vie. Et elles sont renvoyées parce qu'elles ont été dénoncées et renvoyées du collège. Et évidemment, ça a changé le cours des choses parce qu'elle n'a pas pu continuer les études. Elle est venue à Paris, elle a continué ses études au lycée Racine à Paris, mais elle n'a pas eu son bac, etc. Mais ça, sa mère n'en a pas fait un drame. Elle acceptait plutôt l'homosexualité de sa fille parce qu'elle était obsédée par la faute et par la crainte des hommes et de la maternité.
Il y a beaucoup de femmes qui font des écarts, qui font quelquefois un seul écart dans leur existence, qui ont aussi, par exemple, des amours de collège, qui n'osent pas le dire à leur fiancé, à leur mari. Mais je crois que souvent, si elles le disaient, non pas par exhibitionnisme, mais elles ne traîneraient pas ça toute leur vie.
Isabelle quitta mon box. Elle m'avait vue dans les draps jusqu'au cou. Elle ignorait que je portais une chemise de nuit spéciale, une chemise de nuit de lingère. Je croyais que la personnalité s'acquérait avec des vêtements coûteux. La chemise en mousseline de soie frôla mes hanches avec la douceur d'une toile d'araignée. Je me vêtis de ma chemise de nuit de pensionnaire. Je quittai aussi mon box avec mes poignets serrés dans les poignets réglementaires. La surveillante dormait. J'hésitais devant le rideau de percale d'Isabelle. J'entrai. « Quelle heure ? » dis-je avec froideur. Je me retins à la portière. Je braquai ma lampe de poche du côté de la table de nuit. « Approchez-vous, » dit Isabelle. Je n'osais pas. Ses longs cheveux défaits, ceux d'une étrangère, m'intimidaient. Isabelle vérifiait l'heure. « Venez plus près, » dit-elle à sa montre-bracelet. Opulence des cheveux qui balayaient les barreaux à la tête du lit. Cet écran miroitait. Il cachait le visage d'une allongée. Il me faisait peur. J'éteignis. Isabelle se leva. Elle s'empara de ma lampe, de mon livre. « Venez maintenant, » dit-elle. Isabelle s'était recouchée. De son lit, elle dirigeait ma lampe. Je m'assis au bord du matelas. Elle tendit son bras par-dessus mon épaule. Elle prit mon livre sur la table de nuit. Elle me le donna. Elle me rassura. Je le feuilletais parce qu'elle me dévisageait. Je ne sus à quelle page m'arrêter. Elle attendit ce que j'attendais. Je m'accrochai à la première lettre de la première ligne. « 11 heures, » dit Isabelle. Je contemplai à la première page des mots que je ne voyais pas. Elle me prit mon livre, elle éteignit. Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha sur l'édredon. Elle me souleva, elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, mouillèrent mes dents. La langue trop charnue m'effraya, le sexe étrange n'entra pas. J'attendais, absente et recueillie. Les lèvres se promenèrent sur mes lèvres. Mon cœur battait trop haut et je voulais retenir ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait deux notes piquées. Elle revenait, elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières. La rumeur des coquillages trop vaste. Isabelle continua. Nous descendions nœud après nœud dans une nuit au-delà de la nuit du collège, au-delà de la nuit de la ville, au-delà de la nuit du dépôt des tramways. Elle avait fait son miel sur mes lèvres, les sphinx se rendormaient. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer. Isabelle renvoya sa chevelure sous laquelle nous avions eu un abri. « Croyez-vous qu'elle dort ?» dit Isabelle. « La surveillante ?»« Elle dort, » décida Isabelle. « Elle dort, » dis-je aussi. « Vous frissonnez, ôtez votre robe de chambre. » Elle ouvrit les draps. « Venez sans lumière, » dit Isabelle. Elle s'allongea contre la cloison dans son lit chez elle. J'enlevai ma robe de chambre. Je me sentis trop neuve sur la carpette d'un vieux monde. Je devais venir tout de suite près d'elle puisque le sol me fuyait. Je m'allongeai sur le bord du matelas, prête à m'enfuir en voleuse. « Vous avez froid. Venez plus près, » dit Isabelle. Une dormeuse toussa, essaya de nous séparer. Déjà, elle me retenait. Déjà, j'étais retenue. Déjà, nous nous tourmentions, mais le pied jovial qui touchait le mien, la cheville qui se frottait à ma cheville, nous rassurait. Ma chemise de nuit parfois m'effleurait pendant que nous nous serrions et que nous tanguions. Nous avons cessé. Nous avons retrouvé la mémoire et le dortoir. Isabelle alluma, elle voulait me voir. Je lui repris la lampe. Isabelle, emportée par une vague, glissa dans le lit, remonta, piqua du visage, me serra. Les roses se détachaient de la ceinture qu'elle me mettait. Je lui mis la même ceinture. « Il ne faut pas que le lit gémisse, » dit-elle.
Je ne me fais pas plaisir quand je me regarde dans une glace. Je me trouve pas aimable. Puis enfin, ça se calme, parce que, justement, alors là, c'était pas temps de vieillir quand on est laid, parce que... Ça se calme, s'il y a un rire dans la rue, il est plus secondaire, s'il y a un haussement d'épaule, même par exemple si je m'habille trop court, c'est plus secondaire, tout ça va s'affaissant et c'est presque désolant aussi. Mais je ne me trouverai jamais jolie, même quand je serai très vieille, puisque tout ça s'efface, dans le miroir, je me verrai toujours laide. Et puis, il est certain que je suis laide. Et quand on est laid, on est tout de même voué à la solitude, à l'isolement. C'est très injuste, puisqu'il y a le reste. Mais les êtres, c'est d'abord l'extérieur qui compte, en général. D'abord, comme souvent je m'habille avec l'excentricité, J'impose davantage ma laideur. Et en même temps, c'est compliqué, je suis désolée de l'imposer, je suis désolée de me faire remarquer. Et pourtant, qu'est-ce que je cherche à me faire remarquer? Alors ça n'a plus de fin. Je me ridiculise, mais je me fais plaisir. J'aime bien, comme ça, me regarder dans la glace avant de sortir et me dire, tiens, finalement, c'est pas mal. Puis quand je suis dans la rue, je déchante, parce que pour les autres, c'est pas tellement bien.
Comment Violette Leduc apparaissait-elle à un témoin? En l'occurrence, la romancière Dominique Rollin.
C'était un être à la fois tout à fait extravagant. Ce qui frappait en premier lieu chez elle, c'était sa laideur. Pas de corps, elle avait un corps extrêmement gracieux, elle était fine, belle, belle de corps. Mais le visage était d'une laideur qu'elle sentait elle-même et qui a été sa souffrance et en même temps une sorte de fascination. Elle était fascinée par cette laideur. Alors elle essayait de se protéger en s'habillant, suivant la mode, avec une extrême attention. C'était la robe des mini-jupes qui nous venait d'Angleterre, vous savez. Et alors, elle arrivait comme cela, habillée d'une jupe qui s'arrêtait au ras des fesses, et tout ça avec un corps très gracieux. Elle était à la fois sauvage, on sentait qu'elle devait adorer la solitude, et en même temps, elle était devenue très mondaine, très vite. Elle fascinait les gens, elle les fascinait et les intéressait.
Reprenons l'évocation de la vie de Violette Leduc. Retrouvons-la à l'époque de sa jeunesse dans la capitale, Carlo Gianzitti.
C'est la découverte de Paris, de la musique, des concerts, de la littérature également, des lieux évoqués dans les romans de Cocteau qu'elle visite pour la première fois. Et puis c'est quand même elle va vivre bientôt, en tout cas avec son amie Denise. Elles ont été séparées au moment du renvoi du collège, mais elles se retrouveront à Paris. Elles vont vivre ensemble pendant 8 ans.
La présence de la littérature, elle se fait par les livres qu'elle lit, mais est-ce qu'elle a pour la première fois la sensation qu'elle va peut-être devenir écrivain, ou c'est quand même plus tardif?
Le désir d'écrire peut-être lui est venu au moment de ses études, même au collège de Valenciennes et de Douai. Mais elle y avait renoncé parce qu'elle manquait de confiance en elle-même. Et il faut dire que Violette Leduc avait des fortes complexes intellectuels qu'elle a dû par la suite vaincre bien plus tard grâce aux encouragements de Maurice Sachs et puis commencer au soutien de Simone de Beauvoir.
Il y a Maurice Sachs, donc, qu'elle rencontre par des amis. Et il y a aussi, à peu près au même moment, le fait qu'elle se marie. Enfin, un mariage quand même largement raté.
Oui, au moment de la guerre, elle retrouve un ancien ami. Elle avait perdu son emploi comme secrétaire, Violette Leduc, parce qu'elle avait vécu, il faut dire, après l'école. Elle avait vécu de petits boulots dans l'édition. Elle avait été secrétaire chez Plon. Et ensuite, elle avait travaillé chez Denis Batchef comme scénariste. Et c'est là qu'elle avait rencontré Maurice Sachs. Donc il y a eu par la suite un mariage qui a duré très peu de temps avec un ancien ami de jeunesse, Jacques Mercier, et qui se conclut par une tentative de suicide et un avortement. Et il y a eu également, à la même époque, cette rencontre qui se révélera décisive, déterminante dans sa vie, celle avec l'écrivain Maurice Sachs.
Oui, alors là, on tombe sur une composante essentielle de la vie de Violette Leduc, c'est-à-dire de tomber amoureux de gens qui ne peuvent pas l'aimer, enfin, qui ne peuvent pas l'aimer physiquement, c'est-à-dire justement des homosexuels comme Maurice Sachs, après ce sera Jacques Guérin, mais on dirait effectivement que c'est une destinée très écrite déjà, dès ses premières rencontres.
Violette Leduc ne pouvait vivre que dans la souffrance, dans le malheur. Après ses amours de jeunesse, elle est tombée amoureuse d'un homosexuel, de Maurice Sachs, plus tard de Jacques Guérin, mais c'est pour répéter, sans doute, d'après moi, le rejet paternel. Hein. Elle ne peut vivre que dans l'échec, il y a un masochisme effroyable. C'est une sorte de passion malheureuse à miroir, qui se répète jusqu'à la fin de sa vie.
Je retrouve Maurice Sachs le dimanche. Il ne s'est pas rasé, sa chemise est grise, bientôt elle sera sale. La conversation languit. Sachs est aimable, trop aimable. Je paie nos consommations. Vous êtes triste, ma chère. Vous êtes toujours triste. Ma chère. Aujourd'hui, c'est une formule de mondain misérable. Qu'est-ce que nous attendons dans ce café trop grand, trop lugubre, sans clients? Sa barbe pousse à vue d'œil. Ce soir, ce sera presque un clochard. Que peut-il voir et ruminer dans son verre d'alcool? Il se décide enfin. Je vais vous faire une proposition. Commence Maurice. J'avais la gorge serrée. Ma gorge se serre. Vous voulez? Ajoute-t-il. Il descend trop bas. C'est intolérable. Dites toujours. On verra bien. Il prend une cigarette dans mon paquet. Le geste est plus vif. La barbe moins triste. Planté devant nous, le garçon de café est subjugué. Maurice allume ma cigarette. Est-ce que vous aimeriez avoir un enfant de moi? Me demande-t-il. Il me prend au dépourvu. Je bredouille un faux oui et un faux non. Il passe outre, vous partez dans le midi. 8 jours de soleil. Vous êtes en pleine forme. Et nous faisons l'enfant. Maurice fume plus vite que d'habitude. Le bout de la cigarette rougit. Nous nous taisons, nous nous évitons. Vous êtes d'accord? Me demande Maurice. Je ne suis pas d'accord. Voulez-vous de l'argent? J'ai 300 francs, les voulez-vous? Maurice Saxe lève les yeux. Vos 300 francs ne me déplairaient pas, dit-il en riant. La chemise redevient blanche, la barbe est moins drue, l'œil revit. Je lui donne tout ce que j'ai. Il m'invite à dîner, mais je refuse. C'est dans ma tête que j'ai une sérieuse envie de dégueuler. Les années ont passé. J'ai essayé de comprendre. Si je l'avais pris au mot, il se serait exécuté. L'argent le guidait. Ce n'est pas sûr. Sensible, humain, trop humain par moments. Il voyait ma vie. Il voyait le désastre de mon mariage. Il devinait mon sentiment pour lui. Voulait-il me changer en mer pour me sauver? Ce n'est pas impossible. J'aurais reporté mon amour pour Gabriel et mon amitié amoureuse pour lui sur un petit. 8 jours de soleil avant. Prévoyance d'homosexuel. Supposons que je me trompe. J'étais quand même l'espoir, la confiance, l'optimisme de Maurice Saxe lorsque sans un sou il s'était lancé vers moi. Il connaissait des gens fortunés et voilà qu'il se tournait vers une pauvre, une obscure. Répondre à l'appel d'un ami dont les amis sont là. On dit que les homosexuels abusent des femmes qui sont folles d'eux. Tant pis pour elles, tant pis pour moi. La folie d'un sentiment se paie de 36 façons. Les aimer est un égarement luxueux.
Si on dit Maurice Saxe, c'est toujours cette image-là que j'ai devant les yeux. Et c'est la dernière de lui. Il ne m'avait pas dit qu'il partait pour l'Allemagne. Je croyais qu'il allait nous chercher une maison dans le Poitou. Mais d'abord, il venait à Paris pour régler, je crois, des comptes avec l'éditeur d'art Pierre Tisney. Et j'avais beaucoup pleuré pendant 3 jours à cause de son départ, puisqu'il m'avait un peu rudoyé en me disant amicalement, en me disant que j'avais un visage d'outre-tombe et qu'il préférait que je ne lui dise pas au revoir le matin quand il quittait le village de Normandie à 5 heures. Je n'ai pas dormi de la nuit. À 5 heures, je me suis levée quand même, je suis descendue dans la cuisine. Il était en train de prendre une pauvre serviette, une sorte de ces serviettes de représentant de commerce à la dérive, comme bourré d'inutilité, mais la sienne ne l'était guère parce qu'il emportait le manuscrit du sabbat qu'il allait remettre à de Noël. C'était vraiment le déluge. Je l'ai accompagné jusqu'à la barrière en chemise de nuit et je l'ai vu descendre la côte, un peu voûté avec un malheureux imperméable qu'un juif réfugié dans le village lui avait prêté, un chapeau mou, de vieilles chaussures. Et là, je ne sais pas, on est parfois voyant, je me suis dit, je ne le reverrai jamais.
René Tsekati.
Les hommes sont la menace qui peuvent vous faire des enfants. Donc, Violette a fui les hommes, disons, pour des raisons familiales. Hein, c'était une raison fondamentale, mais elle était attirée par les hommes. Donc la solution, et ça a été d'avoir des relations avec des homosexuels, parce que avec eux, il n'y avait aucun danger. C'est une fuite, et c'était pas dire uniquement... Bon, il y avait des homosexuels dont elle était amoureuse, mais aussi des hommes faibles, des hétérosexuels qu'elle pouvait manipuler, manier. Et ça a été le cas de son mari. qu'elle appelle Gabriel et qui s'appelait en réalité Jacques, comme Jacques Guérin, et Jacques Mercier. Et cet homme, au fond, c'était la proie idéale.
J'écris des phrases d'asthmatique, c'est-à-dire des phrases très courtes. Mon rêve d'écrivain, ce serait écrire des périodes à la Bossuet, des développements à la Jean Genet. Je n'irai pas jusqu'à Proust, mais si j'écrivais comme Genet, évidemment, je serais folle de joie. Mais hélas, je n'y parviendrai pas, c'est plus fort que moi, il faut que je coupe. Et il faut que je mêle à ce style d'essoufflé un souvenir d'enfance. Quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours, si j'écrivais un petit mot à une parente, que tu es lourde pour t'exprimer, toujours des queues raccourcies. Et comme ma mère m'a beaucoup impressionnée quand elle m'a fait des reproches, je pense que je lui dois aussi ce style aux phrases trop courtes. Je n'ai pas de vocabulaire, si je puis dire, mais mon vocabulaire n'a pas de largesse. Évidemment, je ne suis pas très instruite, pas très cultivée, même peu cultivée, et j'ai un vocabulaire très restreint. Je n'ai pas le souvenir de mes lectures. Alors, quand j'écris, je suis très, très limitée. Et puis, il y a des mots pour lesquels j'ai une certaine tendresse. Par exemple, dans La folie en tête, j'aurais toujours voulu écrire le mot démystifier, le mot désacraliser. D'ailleurs, je l'ai employé à propos de Jean Genet pour le faire plus humain, plus possible de caractère, moins génial, si je puis dire. Et il y a des mots comme ça pour lesquels j'ai une marotte. À mon humble avis, il n'y a pas d'inspiration. On a beaucoup parlé de l'inspiration, on en a souvent parlé chez les romantiques. Eh bien non, l'inspiration, c'est le travail. Plus on travaille, plus ça devient facile. On ne peut pas lever la tête et entendre des voix au plafond comme Jeanne d'Arc les entendait. Ça n'existe pas. On avait beaucoup dit que Rimbaud n'avait pas eu des voix, mais enfin avait été un génie plus qu'inspiré, qu'il avait écrit au fil de la plume ses poèmes. Ce n'est pas vrai, maintenant nous avons des manuscrits authentiques où c'est rature sur rature. Et je le redis, travailler, c'est un tremplin. Plus on travaille régulièrement, plus on travaille profondément, eh bien les trouvailles viennent. Et si on travaille à peine, rien ne vient, c'est bâclé et c'est mauvais.
Violette Leduc revient souvent sur cette question d'écriture.
J'écris bien. Si je pense à Rousseau, j'écris pas bien. Si je pense à Genet, je n'écris pas bien. Si je pense à l'autre et à mon, je suis un avorton. Si je pense à Rimbaud, je suis pas encore né, je suis sous terre. Et tout ça est relatif. Mais enfin, dans mon petit domaine, K1KA, bien sûr, il y a, comme on dit bêtement, il y a mieux, il y a pire. Mais je peux pas dire que je suis contente, et heureusement. Si j'étais satisfaite, ben j'ai plus qu'à plier bagages et aller vendre du mouron pour les petits oiseaux.
Je suivis Simone de Beauvoir jusqu'au fond du bar. Un homme de taille moyenne, corpulent, l'accueillit à bras ouverts. Il l'appelait Simone. Je fus choquée. Son visage d'enfant gâté, ses grosses lèvres de mongol, ressemblaient à ceux de mon cousin. Simone de Beauvoir me présenta. Il me serra la main avec indifférence. Koestler et Beauvoir se plongèrent dans une discussion. Assise près d'elle, muette, j'étais sa machine enregistreuse. Je vivais à l'ombre de sa gloire tout en fumant mes cigarettes. 10 heures du soir. J'ai tourné la tête. Je l'ai reconnu sans le connaître. Il hésitait sur la dernière marche. « Genet, me suis-je écrié. « Vous le connaissez ?» me dit-elle. Je l'intriguais. Je ne le connais pas, mais je vous dis que c'est Genet. Quelqu'un m'avait signalé, plusieurs mois avant, Genet à la terrasse du Flore. Où ? Là, avec un chandail blanc. Là, c'était au loin. Il partait, il me tournait le dos dans la foule. Comment pouvais-je le reconnaître ce soir ? Je répondais à Simone de Beauvoir, je ne quittais pas Genet des yeux. Il se frayait un chemin. Je voyais mieux la ceinture de sa gabardine soigneusement serrée autour de la taille. Genet se faufilait entre les fauteuils. Le voici devant nous. « Genet !» lui dit-elle, plaisamment étonnée de le voir ce soir. Je m'attardai sur la boucle de ceinture de Jean Genet. Son visage, Je me le réservais pour plus tard. « Bonsoir, Castor, » dit-il. Une simplicité surnaturelle. Elle me présenta à Jean Genet. « Je vous ai lu, » lui dis-je trop vite. J'ignorais si je le reverrais, je voulais qu'il le sache. Il me souriait. Une main dans la poche de sa gabardine, il ressemblait à un passant qui s'est trompé d'endroit. Son sourire qu'il prolongeait signifiait « Vous m'en dites trop, je ne vous en veux pas. » Les yeux clairs de Genet m'interloquaient. Ils entraient en moi, ces yeux froids. Il s'assit dans le dernier fauteuil en face du mien. Une espèce d'aventurier guindé venu en visite, qui s'abaissait jusqu'à nous, qui croisait les jambes, qui posait sa main gantée de daim gris sur sa cuisse. « Alors comme ça, vous aimez ce que j'écris ?» dit-il longtemps après. Il ne fallait pas parler à la légère avec lui. « Vous êtes le plus grand, » dis-je d'une traite. Une ombre passa sur son visage. Je manquais de tact. Je le regardais. Mon élan semblait l'attrister. Me croyait-il ? Simone de Beauvoir m'a prêté Miracle de la Rose, dis-je à Genet. Il me regarda sans me voir. Ensuite, il regarda avec cette tristesse qui nous rend inexpressifs le jeune homme qui lui apportait un alcool. Je respirais un parfum pompeux, les effluves de la mort et de la douleur dans tout leur apparat, l'encens pour le nommer, depuis que Genet était entré. La bouche de Genet, une surprise incroyable. Elle était restée celle d'un enfant généreux et heureux. Il but une gorgée de cognac. Il ne me décevait pas. C'était là son cérémonial et sa simplicité. Il effleurait le verre, il condescendait à prendre une pincée de réalité à notre monde qui n'était pas le sien. Il sortit avec sa main toujours gantée la boîte de gitane de la poche de sa gabardine. Il alluma sa cigarette. Pas un geste inutile. Une assaise dans sa rigueur pour éteindre l'allumette. « Cet homme, me disais-je, est une cérémonie. » Si vous saviez comme j'ai aimé « Miracle de la Rose ». Il tapotait sa cigarette au bord de la soucoupe. Il était consciencieux avec la cendre. Elle ne devait pas tomber à côté. Sans blague. « Vous aimez mes livres ?» Sans blague. Genet est charmant lorsqu'il doute. Sans blague. Voilà Genet sensible, comme une feuille de peuplier. Il observa Koestler. Il entra un instant dans leur discussion. Il en ressortit. « J'ai lu votre asphyxie. » D'un autre, l'ablation du L' m'aurait désolé. De lui, mon titre écorché m'enchantait. La discussion devenait de plus en plus animée entre Beauvoir et Koestler. Je n'étais pas seul. Jean Genet, sans rien me dire, me tenait compagnie. J'aime un transistor détraqué. Il vous envoie des rafales de musique, comme si la musique était un élément déchaîné. De ce Jean Genet qui se préparait à nous quitter, qui pensait à autre chose, je recevais des rafales de tendresse. Il se leva, il partait, sans avoir enlevé ses gants. « Est-ce que je vous reverrai ?»« Déjeunons ensemble, » me répondit-il. « J'habite à l'hôtel de la Fleur de Lys. » Il partit sans nous serrer la main. Je le suivais des yeux. Prestance étonnante. On aurait dit un lord et un boxeur.
Il y a souvent chez Violette Leduc des pages absolument éblouissantes, je veux dire, d'une invention stylistique extraordinaire. Par moments, en revanche, on pourrait lui dire, alors là, peut-être un tout petit peu moins de ça. Non,
c'est ce que faisait Simone de Beauvoir, d'ailleurs, hein, puisqu'elle elle ne corrigeait pas, mais elle relisait. Violette Leduc, et elle lui disait parfois ces pages sont de mauvais goût, c'est pas possible. J'ai lu un texte sur le peintre Séraphine de Senlis, qui était un peintre sur lequel tout le monde s'était exalté dans les années 40, et Violette Leduc l'avait découverte, avait écrit un texte qui est en effet impubliable, comme on dit dans l'édition, parce que l'excès là est poussé à un tel point que ça devient à la limite du ridicule. C'était un délire sexuel. Il faut dire que Violette Leduc n'était pas non plus quelqu'un de très équilibré. Donc, il y a des moments où son style...
On peut dire qu'aucun écrivain de talent ne l'est beaucoup.
Non, bien sûr. Bien entendu.
René Tsekati.
Mais bon, elle a quand même connu, disons, la limite de la folie. Elle a été quand même, elle a eu des crises de paranoïa qui ont justifié son internement. Elle a quand même été internée, elle a fait une cure de sommeil. C'était un internement doux, mais elle a quand même eu des électrochocs. Hein. Donc elle n'a pas toujours exactement contrôlé dans la solitude, tout simplement, ce qui est le propre, en effet, de beaucoup d'écrivains qui finissent par ne plus avoir d'écho. Elle n'a pas contrôlé entièrement son style et ce qui pouvait être excessif. Et c'est vrai, le fait qu'elle savait que Simone de Beauvoir serait toujours là pour la contrôler, lui enlevait toute censure, au fond.
Pour moi, Simone de Beauvoir ne vieillit pas. Elle ne vieillit absolument pas. Je la vois toujours comme je l'ai vue la première fois pendant la guerre, quand elle écrivait au Café de Flore, non pas pour s'exhiber, mais parce que les écrivains n'avaient pas de charbon. Les écrivains n'avaient pas de café ou du thé bien chaud. Alors elle allait là écrire pour boire un peu des boissons chaudes et se réchauffer, en même temps que Sartre, en même temps qu'Adamoff. Et j'avais demandé au garçon Pascal si c'était bien elle, il m'avait dit que oui. Alors je venais, bon, ben le mot est exact, la contempler, parce que je n'avais jamais vu une vraie femme écrivain, en chair et en os, et en plus, j'admirais son talent avec l'invité. En ce moment, je suis assez révoltée parce qu'on dit que dans La Folie en tête, j'ai fait de Simone de Beauvoir une idole, une déesse. Ça n'est pas vrai. Je ne peux pas discuter philosophie avec Simone de Beauvoir. Je me tais. Je ne peux pas discuter profonde psychanalyse. Je me tais. Vraiment, je ne peux pas discuter avec elle. Alors, ne pouvant pas, elle n'a rien à me dire d'elle. Ça la regarde de ne pas me le dire. Mais elle me questionne beaucoup sur moi, sur ma santé, sur mes difficultés. En général, une idole ne pose pas ces questions-là. Une idole se tait, une idole se laisse adorer. Simone de Beauvoir ne se laisse pas adorer. D'abord, elle se serait laissée adorer. Elle n'aurait pas eu le temps de s'occuper de mon travail, de m'encourager, de le voir, de le revoir, et vraiment de collaborer énormément à ma réussite, car je l'ai dit mille fois et je le redis, je lui dois tout. Et si Simone de Beauvoir, après Ravage, ne m'avait pas tenu à la force du poignet et même au moment d'écrire La Bâtarde, j'aurais tout abandonné. Elle a toujours eu confiance et elle m'a infusé sa confiance. Et je le répète, c'est à elle que je dois tout et je ne l'oublie jamais.
Simone de Beauvoir explique tout sans discours. Si je lui dis « je ne suis pas une intellectuelle », elle a l'air fâchée. « Vous êtes une intellectuelle, puisque vous écrivez », me répondit-elle. Elle me le démontre. Se révolter, c'est prouver son honnêteté. Des preuves, des explications, elle m'en donne à 200 à l'heure. Je renie mes pâquerettes dans ces moments-là. Je les reprends après. « Avez-vous travaillé ?»« Oui, j'ai travaillé. » C'est l'essentiel. Censeur et moraliste, allez-vous faire foutre ? J'ai répondu à sa question. « L'arbre boit mieux le bleu du ciel. » Sa vie est ailleurs. Je le comprends, et je ne le comprendrai jamais. Elle m'a dit hier, ma vie est ailleurs. Hier, 20 années. Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle sera ? Une jeune fille. Simone de Beauvoir sera toujours la jeune fille qui descendait la première de notre taxi quand elle arrivait devant chez elle. Elle me donnait ce qu'elle promettait. J'étais sauvée. Mon gros nez. Je ne l'oubliais pas. Je l'imposerai à Simone de Beauvoir pendant 5 ou 6 heures. Je me maquillais, je le voyais à la loupe. J'étais près d'elle, mon nez disparaissait. Le bonheur, quel coup de plumeau. Je la quittais, je me prenais pour un homme repoussant quand il tourne autour d'une femme très belle. Si j'insistais, elle me parlait de mon visage baroque. Mais non, je n'étais pas laide. Je m'achemine vers ma 60e année. Le bois blanc, les vers, la terre, la poussière seront bientôt plus proches que l'os et la chair d'un gros nez. Eh bien, je n'oublie pas ce qu'elle devait, ce qu'elle doit supporter chaque fois qu'elle me regarde. Si je la quitte à 5 heures de l'après-midi, je me retrouve sur le quai du métro, j'observe, angoissée, le manège des vieillards pour les gamines qui sortent de l'école. Pourtant, je ne suis pas un de ces vieillards. Pourtant, elle n'est pas une de ces gamines. Tu mens. Tu étais. Tu es un affreux vieillard qui sonne à sa porte avec des battements de cœur. Tu sais ce que tu fais avec tes complaisances pour ton gros nez. Tu la ravales au rang des chercheurs de minois. Je ne crois pas. Ah, que je me décourage avec ceci. Si nous ne sommes pas intelligents, nous donnons de nous-mêmes un spectacle 100 fois plus ennuyeux avec nos traits ingrats. Mon nez a été rectifié. Je lui ai confié. Qu'est-ce que ça devait être ? A-t-elle laissé échapper ? Je ne lui en veux pas après ce Golgotha. Conclusion. Ma crainte de l'ennuyer est pire que ma frayeur de lui imposer mon nez.
Avant, au fond, le triomphe de la bâtarde, la légende voudrait que, au fond, Violette Leduc ait été un écrivain complètement méconnu. Dans votre biographie, Carlo Giansitti, vous dites pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, bon, elle n'a pas été connue du grand public, ni même d'un public un peu large. Mais en revanche, elle a été quand même reconnue assez bien par ses pairs, et elle a même eu, à part peut-être les deux premiers livres, des critiques relativement attentives.
Elle n'était pas connue, elle n'était pas célèbre, elle n'était pas connue par le grand public, ça c'est certain.
D'une certaine façon, il y avait un certain masochisme et peut-être une certaine fierté aussi à se sentir maudite, à se dire maudite. Il faut dire qu'elle était quand même, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle était aidée par Simone de Beauvoir qui lui faisait verser une indemnité sur ses deniers, si je puis dire, chez Gallimard. Elle était aidée en partie aussi par Jacques Guérin, je pense. Et en même temps, pendant la guerre, par exemple, vous nous montrez qu'elle se débrouillait très bien, elle faisait du marché noir, etc. Cela dit, elle vivait quand même petitement. Jusqu'à la bâtarde.
Elle avait des moyens très modestes, mais enfin, elle avait de quoi survivre, si je peux dire. Et elle pouvait compter non seulement sur l'aide de Simone de Beauvoir, qui lui a fourni une pension, une petite pension, pendant quand même 17 ans, jusqu'au succès de la bâtarde. Mais elle pouvait également compter sur la générosité de quelques amis aisés, comme Jacques Errand, Adriana Salem, et d'autres qu'on a découvert par la suite, dont elle parle pratiquement pas dans son autobiographie. Peut-être pour mieux fonder sa légende noire, probablement.
Fini un moment la malédiction ou la semi-malédiction, c'est la bâtarde, et la bâtarde c'est le triomphe, et soudain Violette Leduc devient une espèce de, on pourrait dire presque de star de la littérature business. Alors ça, de toute façon, elle en souffrait un peu, mais en même temps elle en était sans doute assez contente, et elle n'hésitait pas à se montrer un peu partout, dans les boîtes à la mode, dans des tenues un peu extravagantes, donc finalement ça lui plaisait, non?
Mais oui, après tant de privations, c'était naturel qu'elle avait envie de faire un peu la fofolle.
De plus en plus, on aime le vécu. Alors, je bénéficie de ce moment. Et puis, il y a autre chose. Sartre a dit un jour, enfin, je crois dans Qu'est-ce que la littérature, il a dit, le lecteur pose une question. À l'auteur d'y répondre, tant pis si l'auteur n'y répond pas. Et, justement, je réponds à cette question du vécu, mais mon succès, c'est toujours la même chose, c'est pour les autres, ça n'est pas tellement pour moi. Oh, je ne fais pas la fine bouche, je suis contente, ça m'a donné de l'assurance. Si je n'avais pas eu un peu de succès, je serais incapable de parler à ce micro en ce moment, parce que j'étais très timide, je le suis encore, mais mes amis me donnent de l'assurance, justement mon livre dans les vitrines des libraires me donne de l'assurance, le tirage de la bâtarde aussi. Bon, finalement, je ne suis pas transportée de terre. J'ai eu un seul moment de féerie en littérature, c'est quand Simone de Beauvoir m'a dit qu'elle avait lu le manuscrit de l'Asphyxie, qu'elle allait le donner à Camus, qu'il paraîtrait dans la collection Espoir, et qu'en plus, on donnerait 3 extraits de mon livre dans les temps modernes. Alors là, vraiment, j'ai été soulevée de terre.
Et la littérature ? Elle m'affaisse. Elle m'inspire quoi ? Paresse, heure creuse, prétexte pour paresser. Je suis son parasite. Je dois écrire, je change d'avis. Je cours les cinémas de quartier, les églises vides, les squares sordides. Je fuis mon cahier. Il est mon refuge, je cherche où me réfugier. Je le délaisse sans l'abandonner tout à fait. Je suis écœurée. Je devrais revivre. J'écris ce que j'ai vécu, je m'enlise. Je monte en épingle des drames devenus des petits riens avec les années. Un petit rien ? Mon avortement ? Exagération. Le passé dans le présent, aimanté. La semaine dernière, j'ai tourné plusieurs jours de suite autour des landaux et des édredons garnis de volants et de rubans. Je relisais le récit de cet avortement dans mon prochain livre. Je gardais les poussettes avec la vieille préposée devant les vitrines de prise unique. Les bébés sortaient du magasin dans les bras des mamans. J'étais pleinement satisfaite. J'étais ronde, comme une grosse pomme à qui on a laissé une feuille et une queue. Je me demandais, longtemps après les manœuvres abortives, ce que c'était élever un gosse. Je cherchais pendant qu'elles agrafaient la courroie de la poussette. C'était choyer la vie. Je suivais les mamans avenue Le Drurolin avec les bébés devant, leurs cellulites, leurs chevilles affaissées, leurs pas traînants, leurs laisser-aller. Un relâchement, une floraison. Les grandes eaux de notre Versailles, notre quotidien. J'en étais exclue. Je suis un peu plus qu'elle et beaucoup moins qu'elle. Un écrivain à la godille, une amoureuse loufoque, une dingo qui ne va pas jusqu'au bout. Leur langue rose. Elles léchaient deux glaces, elles aspiraient le double cornet. Elles vivaient, elles n'écrivaient pas. Leur promenade leur suffisait. Je les utilisais puisque je les avais repérées, puisque je les décris. Écrire, c'est indiquer. Je suis la plupart du temps un indicateur pour moi-même quand je marche dans les rues de Paris. Les passants, des trésors, même si je les insulte. Je m'accuse si j'ai manqué un visage, une nuque. Je reviens sur mes pas. Il me fallait cette coupe de cheveux. Elle manquait à ma collection pour mon dernier soupir. Écrire, c'est donner sa chaleur. J'ai donné mes mains tièdes à une scie à métaux, dans l'étalage d'une quincaillerie. Je me suis fascinée sur le zigzag régulier des dents. Je montais en haut des montagnes, je descendais au fond des mers. La fourmi faisait le tour de la terre. J'ai glissé sur la pente du fleuve le plus lent de l'autre côté de la lame. Intègre le gris profond de l'acier. J'achetais les forêts, je les offrais à ce gris profond. La poignée, engageante, avec la branche de laurier peint. Ce sera une empoignade quand il commencera de scier. Un outil, c'est un répond. Combien coûtait-elle ? Je reviendrai. Je réfléchirai. Le vendeur me la montra à voir de plus près. Je la tenais comme le coussin de nos anciennes processions. Elle était pure. J'ignorais que j'en parlerais. Maintenant, elle se rouille dans la bouillie de mes phrases. J'allais la voir quand il gelait, mademoiselle élue. Toujours de bonne humeur, ses petites dents, avant que je paie ma place à la caissière du cinéma Saint-Antoine. Maintenant, elle traîne du côté de Barbès. On s'est prostitués ensemble. Je l'ai mise sur le trottoir. Écrire, c'est se prostituer. C'est aguicher, c'est se vendre. C'est peut-être pire. Les putains ne sentent rien. Chaque mot est une passe. Adjectif, tu viens ? Dis, tu viens, chérie ? Je te ferai des choses, adjectif. Tu monteras au ciel. Combien ? Le prix du livre à paraître. Car il ne faudrait pas exagérer avec la littérature. Car il ne faudrait pas tout rejeter parce qu'on n'a pas une vocation d'écrivain. Je mange une choucroute dans une brasserie qui s'éteint, c'est vivre autant que crier. Écrire, c'est tremper sa plume dans l'eau de mer le premier jour de vacances. Le reste est combinaison. Le diamant brut appartient à tous, c'est le soleil quand nous ouvrons la fenêtre. Tout le monde voit le ciel, tout le monde est écrivain. Après, ce sont des jeux de glace. Tout le monde est poète quand le jour baisse et qu'on allume la lampe. Courir d'une certaine façon pour attraper un papillon, c'est avoir un style. Facile, les raisonnements d'enfant. Autour des désolations, je végète, je traîne dans les rues sans écrire. Pourtant, j'écris, muette, je vagis à 4h de l'après-midi sur un banc du boulevard Voltaire. Les feuilles mortes croustillent, le vent emporte les cendres, il rassemble les feuilles autour de mon banc. La mort a moissonné, le vent les chasse devant une banque. Crépitement. Non, je ne serai pas Verlaine. Non, je ne serai pas Rimbaud. Non, je ne tirerai pas un coup de revolver à Londres. Non, je ne serai pas Genet. Non, je n'irai pas en prison à Maitré, à Fontevraud. Les jeux sont faits. Porte plus mes cahiers de calicot. Mangeons un palmier. Écrire ou se taire. Écrire le mot impossible sur la courbe d'un arc-en-ciel. Tout serait dit.
René Tsekati, vous nous avez dit combien Violette Leduc vous a marqué. Est-ce qu'à votre avis, elle a pu influencer d'autres écrivains de votre génération ou des écrivains encore plus jeunes que vous ?
Tous les écrivains, en tous les cas, pour qui la littérature prend la forme de prose poétique, c'est-à-dire les écrivains pour qui c'est avant tout l'approfondissement du style qui est la priorité. Donc là, je pense que beaucoup d'écrivains qui ne la connaissent pas seraient éblouis en la lisant. Même des écrivains très loin d'elle, comme des écrivains antillais, des écrivains africains, qui ont un rapport à la langue qui est très charnel, qui n'est pas cérébral, qui n'est pas uniquement cérébral. Il y a le fait que la matière même de ses livres est sa sexualité, que c'est quelqu'un pour qui, au fond, tout passe à travers la sexualité, parfois de manière excessive, bien entendu, parce que elle décrit le monde. Enfin,
le sexe, c'est toujours l'excès, c'est souvent l'excès, en tout cas.
Oui, mais il est réutilisé, sublimé parfois, alors qu'elle ne le fait pas toujours. C'est-à-dire, quand elle décrit un paysage, quand elle décrit un tableau, c'est souvent directement sexuel, elle l'exprime. Moi, je trouve que c'est tout l'intérêt de cette œuvre, et est aussi là-dedans. Son projet était d'approfondir le plus loin possible sa connaissance de sa propre sexualité. Elle avait souvent dit que l'écrivain Colette n'était pas allé assez loin. Elle admirait beaucoup Colette, mais elle pensait qu'elle n'était pas allée assez loin dans la connaissance de soi-même et dans l'authenticité. Et je pense que, pour moi en tous les cas, Violette Leduc aurait été un exemple extraordinaire d'authenticité, ce que moi-même je cherche dans mes livres, c'est-à-dire avec d'autres moyens, bien entendu. On a des tempéraments trop différents, mais c'est aussi ce que je cherche, aller le plus profond dans l'authenticité, dans la connaissance de moi-même, à travers les moyens de la littérature.
Mais justement, par rapport à Violette Leduc, les moyens qu'elle prend, elle, c'est-à-dire de se laisser emporter par les mots, ce sont des moyens qui vous conviennent aussi à vous. C'est-à-dire qu'on a la sensation que Violette Leduc, c'est dans un flot langagier qu'elle trouve, au fond, la possibilité d'aller vers le fond d'elle-même.
Elle est guidée par son propre lyrisme, Violette Leduc. C'est vrai, elle a un lyrisme verbal qui est, au fond, une espèce de mélopée intérieure qu'elle n'a pas toujours. C'est-à-dire que parfois...
C'est pas très proche de vous, pourtant.
Ça, ce n'est pas proche de moi, non. Oui. Non, c'est vrai. Mais elle le rééquilibre immédiatement par une connaissance très, très précise des rapports psychologiques. Et donc, ces dialogues sont formidables. Une intuition d'autrui qui est extraordinaire.
Je me griffe et je me scandalise moi-même. Et c'est terrible, parce que plus je me scandalise, plus j'ai peur du qu'en dira-t-on. Et c'est terrible aussi, parce qu'une feuille blanche, c'est pour moi la générosité même, l'impunité, l'indulgence. Je peux tout dire sur ma feuille, mais dès que c'est dit, j'ai peur de regarder mes voisins ou ma concierge, parce que j'imagine qu'elle lise ma feuille noircie sur mon visage, dans mon dos, dans mes cheveux, au bout de mes ongles. Pendant que j'écris, je me donne à fond. Aussitôt que j'ai écrit, je n'y pense plus. Ça fait partie du 30 ans, ça fait partie du quotidien. Je ne cherche pas à m'imposer. Je cherche à faire mon travail, c'est tout. Il faut raconter ce qui est. Si on entreprend une biographie, il faut y aller à fond. Si on n'y va pas, on n'y va pas à fond, c'est vraiment tricher. D'autre part, il n'y a pas d'impossibles amours. Il n'y a qu'à lire Freud. Il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de dévié. Tout peut s'arranger, et tout s'arrange d'autant mieux où qu'on peut le confier de vive voix, où qu'on peut l'écrire. Mais la damnation, j'y crois pas. C'est un mot de pacotille.
Violette Leduc, 1907-1972, avec la participation de René de Secati, Carlo Gianzitti et Dominique Rollin. Voix de Violette Leduc, Archives de l'INA. Textes extraits de L'Asphyxie, La Bâtarde, La Folie en tête, lus par Evelyne Guimara. Mixage, Jean-Claude Gauthier et Jean-Louis Deloncle. Une émission de Christian Giudicelli, réalisé par Marie-André Arminot.
Diffusée une première fois le 20 février 2000, cette émission est disponible en ligne et podcast sur notre site. La semaine prochaine, Une vie, une œuvre sera consacrée par Victor Massé de L'Épinay et Clotilde Pivin à Charles Trenet.